Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau. Salut, c'est Pascal Claude, la place de l'art dans un pays qui se reconstruit. Et nous voilà à Kigali. Bonne écoute.
La première.
Le samedi.
De 10h à 11h.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
À quoi est-ce que les quelques images en tête allaient-elles être confrontées ? À quelle réalité ? Dans l'avion, je lis ces lignes. Il est encore tôt, sans doute, pour que nous soyons en mesure de cerner une telle chose, d'en saisir le sens et les conséquences sur le présent et l'avenir. Cette chose évoquée ici, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 1 million de morts. Plus loin, je m'arrête encore sur ces mots. Les Rwandais sont un peuple qui pousse la discrétion jusqu'à la dissimulation. C'est quand le Rwandais se tait qu'il dit précisément ce qu'il pense. Ce sont quelques bribes d'un livre à paraître de Dorcy Rugamba. Il a perdu sa famille il y a 30 ans au Rwanda et il est aujourd'hui le directeur artistique de la première triennale de Kigali. Cette triennale est le motif de notre voyage. Comment est-ce que l'art et la culture contribuent à la renaissance d'un pays ? Avec l'invention de quel récit ? Ce sont des questions qui vont nous mobiliser. À quoi est-ce que nos quelques images en tête du Rwanda allaient-elles être confrontées ? Dès notre arrivée, c'est l'extrême propreté de la ville de Kigali qui nous saisit. L'incessant bruit des balais qui frottent les sols, les coups de klaxon, les sons des vieux moteurs, des chants d'oiseaux inconnus, les mélodies tout droit sorties des églises. Devant la plupart des bâtiments de Kigali, nous voyons des agents de sécurité. Nos sacs seront régulièrement contrôlés, nos corps scannés. Aussi, ce qui nous a surpris, c'est le français qui disparaît. Grand règne de l'anglais, rares sont les jeunes qui parlent français. Et partout sur les panneaux publicitaires, le mot « future » apparaît. Et donc, welcome to Kigali.
Dans quel monde on vit ? Numéro spécial depuis Kigali.
Et c'est avec Bawandine que nous débarquons au pays des mille collines. Premier défi, localiser l'événement. Où se trouve le cœur de cette triennale de Kigali ? Nous avons posé la question.
Search the Triennale of Kigali. This is a cultural event.
Okay. Let me help you, okay?
Yes, please.
Asangwino bakubaze umwe.
I don't know where I can find that place.
No, where?
Là, il tombe à 18h, de toute façon. Encore un peu de marche.
Mais personne ne semble savoir. Il faut dire que cette semaine, les Rwandais étaient accaparés par un autre événement, le Tour du Rwanda, grand rendez-vous sportif et festif du pays. Nous voyons des gens téléphones collés à leur oreille en train de suivre les péripéties de la course cycliste. Finalement, nous arrivons sur le site situé juste à côté du mémorial du camp de Kigali, là où les 10 casques bleus belges ont perdu la vie en 1994. Pendant une semaine ici, Kigali réunit des artistes rwandais, bien sûr, mais aussi issus de pays voisins et du reste du monde. Dorcy Rugamba nous reçoit. Cet homme de scène avait participé au spectacle Rwanda 94. Et quand nous le rencontrons, il place immédiatement sa triennale sur la ligne du temps du pays où il a grandi.
Là, le moment dans lequel effectivement cette triennale se tient, 30 ans après le génocide, c'est un chiffre rond évidemment, mais qui n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a une génération après. Le Rwanda, comme beaucoup de pays africains, était un pays très jeune. La majorité de la population, justement, n'était pas née au moment des événements de 94, du génocide contre les Tutsis. Et donc, leur manière d'appréhender cet événement, comme ils n'en ont pas une expérience empirique, très souvent passe par l'art, par les formes artistiques, par la littérature, par le cinéma, par le théâtre, par les arts visuels, par tout ce qui a été produit.
Ça devient le moyen de communication idéal ?
De transmission, de mémoire.
Pour partager ?
Déjà pour savoir, pour partager, pour réaliser. C'est au-delà d'une information brute de savoir les faits, ceci et cela. Mais connaître les faits ne suffit pas. Il faut pouvoir réaliser aussi. Ça, je pense que l'art est un recours vraiment qui sert aussi. Mais on se trouve aussi dans deux temps qui sont totalement différents. Juste après le génocide, dans la situation où se trouvait le pays, l'art a pu servir aussi de travail de deuil. Proposer un rituel à pas mal de gens qui, pour certains, n'avaient même pas les dépouilles des leurs. Je me souviens, par exemple, de la venue de Rwanda 94, 10 ans après le génocide. C'était au-delà du théâtre. On était vraiment dans une forme de rituel, de spiritualité. Et certaines personnes venaient et revenaient plusieurs fois voir ce théâtre. Les temps apportent une appréciation différente, justement, au fur et à mesure qu'un événement s'éloigne dans le temps.
Et aujourd'hui, ça serait quoi alors la spécificité de la culture rwandaise, son rôle précisément 30 ans plus tard, 30 ans après? Vous parliez de rituel quelques années après, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pense que ce qu'apporte l'énergie de la jeunesse aussi, sa manière d'être dans un espace identifié, mais en même temps dans un espace spirituel et imaginaire beaucoup plus large, c'est aussi de réenchanter le monde, de permettre, surtout sur une terre traumatisée comme la nôtre, d'offrir de l'oxygène finalement.
Dans quel monde on vit, à la première triennale de Kigali.
C'est le metteur en scène belge Fabrice Murgia qui a coordonné avec un artiste rwandais le volet théâtral du programme.
C'est une expérience parce qu'en fait, le Rwanda est un pays qui a évidemment des grandes traditions culturelles comme partout, mais pour qui le théâtre, c'est quelque chose d'assez nouveau, je veux dire une quinzaine d'années, je parle de la création contemporaine réellement.
Est-ce qu'il y a des lieux consacrés à la culture et au théâtre ici à Kigali ?
Il n'y a pas vraiment de théâtre. Alors, il y en a, il y a Ishiop Theatre Center, il y a un institut français, par exemple, un Goethe Institute. Mais je vais dire que je ne pense pas qu'il y ait une scène, comme on dirait une scène nationale chez nous. Alors, il y a des bâtiments comme le Convention Center où on pourrait faire des spectacles. Mais ici, sur le site, on a, par exemple, dû construire 3 théâtres de tailles différentes.
En combien d'heures ?
En peu de temps. Pour les Belges, je vais dire que ça correspond un peu à Palais 12, l'endroit où on est. C'est-à-dire que c'est un site où on peut organiser des grandes expositions, des colloques, etc. Et donc, c'est très cher. Et donc, on a dû construire ça en quelques jours.
Oui, ce sont des sortes de tonnelles améliorées.
Oui, voilà. Alors là, autour de nous, il y a des tentes, mais qui sont à moitié en dur. Et alors, c'est la saison des pluies. Donc, au-dessus de nous, par exemple, on voit qu'il y a une espèce de grande tente berbère qui, sur plusieurs centaines de mètres, parcourt le site parce qu'on peut évoluer partout en extérieur, alors que quand il pleut ici, il pleut vraiment.
On vous a vu sur le site et hors du site courir dans tous les sens et presque faire 25 métiers en même temps.
Ouais, j'ai beaucoup appris en étant ici en fait. Parce que il fallait faire un théâtre de zéro. Et surtout, avec un public qui n'a pas forcément l'habitude de se rendre au spectacle. Et donc, ça veut dire qu'il faut former des gens à être personnel d'accueil, etc. Et à l'inverse, moi, j'ai appris surtout beaucoup, parce que ce n'était pas un truc de transmission, évidemment, à sens unique. J'ai appris qu'il ne fallait pas s'énerver, que les choses se passaient et qu'il y a une volonté incroyable. Là où, chez nous, on se dirait, mais ça ne va jamais marcher, en fait. Ici, il y a 50 personnes qui arrivent et qui le font. Et tout ça apparaît. Donc, c'est fascinant.
Vous allez en repartir enrichi ?
Ah oui, mais carrément, c'est une des plus belles expériences de ma vie.
Et comme je le disais, Fabrice Murgia, nous l'avons vu courir dans tous les sens et encore davantage hors du site. Parce que l'un des objectifs de cette triennale, c'est de faire descendre la culture dans la rue, de l'emmener là où elle n'existe pas ou très peu. Alors, nous voici dans un quartier populaire de Kigali. Sur le sol, nous voyons notamment un drapeau européen, des sacs de sable ou de terre, un sac de sel, des objets d'art africain et des bouteilles de vin. Quelques haut-parleurs ont été installés. Le Camerounais Zora Snake est presque prêt. Les gens du coin s'approchent. Le danseur, chorégraphe et artiste-performeur propose ici son opéra du villageois. Zora Snake déboule avec sur son visage un masque avec inscrit ces mots « Stole Mask ». Nous avons alors deviné qu'il allait être question de la restitution du patrimoine africain. Zora Snake va danser, scander, se laisser ensevelir sous la terre et asperger de vin. Il va nous envoûter.
Papa, Zobai wo, et je disais non,
Sora, on peut parler un petit peu? On est la radio belge, la RTBF.
Ah ouais, la belle radio que j'adore.
Ah oui,
ouais, bien sûr. Oui, RTB.
Ouais. RTBF, oui, oui, la première de chaîne de radio. Ouais. Ça s'est passé comment pour vous?
Là, on a commencé?
Oui.
Non, très intense et très touchant aussi émotionnellement parce que il y a une réelle connexion que j'ai sentie dès le début. Avant que je n'arrive, la performance avait déjà commencé. Pour moi, c'était vraiment émotionnel.
Cet endroit où nous sommes, c'est vous qui l'avez choisi?
Cet espace m'a parlé parce que c'est un point de carrefour. Et le carrefour, pour moi, c'est comment penser l'avenir et comment penser le futur monde.
Quelque part dans le monde.
Réclame la rescission de ses œuvres parce que c'est des choses qui nous appartiennent.
Pour moi, la réflexion autour d'un sujet comme celui-là, c'est surtout l'avenir du bien culturel lui-même.
Le savoir de soi-même, c'est le début de l'avenir.
Et pourquoi avoir choisi précisément d'aborder la question de la restitution des œuvres d'art aujourd'hui?
J'ai eu juste une vision des choses, de faire ça en 2017, je crois. D'écrire les premiers mots sur ça au village, parce que je crée toujours à partir de mon village. Pour penser l'humanité, je pense d'abord à partir du village, c'est-à-dire de l'ancrage de la grand-mère où je suis né, à l'ouest du Cameroun. Et donc, du coup, c'est arrivé qu'en 2018, le président français a demandé un rapport sur ça. Et du coup, ça s'est connecté avec la vision que j'avais en 2017 de créer un projet autour de aussi la puissance de nos ancêtres et comment ça résonne dans ces questions sur les restitutions des œuvres d'art.
Se connecter à la grand-mère, vous avez dit?
Se connecter à l'héritage des ancêtres, pas seulement la grand-mère, mais l'héritage des ancêtres qui ont fabriqué et qui ont conçu avec leur âme et esprit ces œuvres aujourd'hui exposées dans les musées que nous, on appelle des sujets et non des objets. Et donc, pour moi, c'est vachement important qu'on ouvre plus la réflexion et comprendre que ce sont des corps qui l'ont conçu. Ce n'est pas comme un pot de fleurs posé sur une table, mais c'est toute une philosophie, c'est toute une connaissance et des savoirs derrière ces œuvres qui ont permis à ce que les villages résistent dans les combats d'indépendance aussi.
Sujet plutôt qu'objet, parce que c'est vivant?
Évidemment, c'est du vivant. C'est pas pour décorer les musées, c'est du vivant. Et donc, du coup, quand j'entre dans les musées, il y a cette absence du vivant là. Et le vivant passe par le corps. Et c'est le corps, justement, qui fait fonctionner l'œuvre. Et l'œuvre fait fonctionner le corps. Et il y a tendance dans le débat, l'éloignement du corps et de l'œuvre. Et c'est pour ça que j'essaye de les rapprocher.
Vous parlez du corps. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre corps? Comment vous l'avez pensé pour ce spectacle? On est en radio, il nous faut des images. Regardez, vous avez de la peinture.
Ouais, or. Or, c'est de l'or. Évidemment, pour parler aussi de la fierté de l'Afrique et de ses richesses. Mais c'est aussi pour... je ne voulais pas aborder ce sujet en brûlant des étapes, mais il y a une étape fondamentale dans laquelle je me suis connecté, c'est le troc de l'or et du sel. Et le sel, aujourd'hui, qui est aussi le symbole de la mer. Et cette mer, aujourd'hui, que beaucoup de jeunes immigrent, c'est aussi peut-être lié à la question de ces œuvres-là, de ces ancêtres dans les musées en Europe qui appellent les jeunes de venir au secours. Et c'est pour ça qu'ils empruntent aussi cette route-là. Et l'or, c'est tout ça, c'est tout ce monde capitaliste dans lequel on est déchiré en ce moment. Et c'est comment réparer ce tissu social dans lequel les puissances se déchirent. Et ça fait partie aussi, les œuvres d'art, d'une forme de puissance, quoi.
Pourquoi renverser du vin sur votre corps?
Ah ouais, parce que le vin, c'est le sang. Ce n'est pas le sang religieux de Jésus-Christ, mais c'est le symbole du sang. Et le sang, c'est le symbole du sacrifice dont les ancêtres ont besoin d'être nourris pour continuer à résister parce qu'ils ont été mal assassinés. Et c'est important de le faire savoir. Et du coup, ils ont transformé ça comme une forme de communion, comme ça, avec le vin à table. Mais avec le vin aussi, quand on parle aux ancêtres, par exemple, quand je parle aux ancêtres au village, ils sont déjà morts, mais ils ne sont pas morts. Chez nous, les morts, c'est le prolongement de la vie. Donc, ils sont des vivants, ils sont vivants qui
c'est
agissent dans les vivants. Ça, c'est la définition de la mort chez les peuples bamileke d'où je viens, à l'ouest du Cameroun. La mort est le prolongement de la vie. Et donc, le prolongement de la vie, c'est se nourrir aussi. Parce que les ancêtres, quand je mange du fromage, j'ai besoin de jeter un peu au sol. Quand je bois une bière, j'ai besoin de verser un peu parce que je pense à eux, parce que je ne suis pas seul. On est avec des entités. Et donc le vin est le symbole de du lien, de la connexion avec les ancêtres.
Vous avez dit tout à l'heure, ce que j'essaye de faire, c'est mettre en scène la vie. Ça veut dire quoi, ça, mettre en scène la vie?
c'est au-delà du spectacle. C'est au-delà du mouvement. C'est la frontière de la vie. Ça veut dire en plein acte, parce qu'en performance, on parle beaucoup de l'acte. En plein acte, je peux me faire mal ou bien je peux cesser d'exister physiquement parce que je suis tellement connecté.
Et aujourd'hui, et vous êtes un peu blessé. J'ai vu que vous étiez un peu blessé.
Non, c'est habitué, l'habitude, c'est pas...
Bah, c'est l'habitude, mais c'est des blessures quand même.
Oui, mais on est habitué, on est dans l'espace public. Voilà, tout peut arriver. Donc, et pour dire vrai, le choc n'a pas été aussi sucré, ça a été salé. C'est pour ça que j'utilise le sel aussi. Et donc, la blessure, ça fait partie de ce côté salé du choc culturel. Mais c'est une blessure qui n'est pas voulue. Ça veut dire que la chose est tellement vraie.
Vous avez parlé...
Et la vie, c'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire, le monde est dans son état brutal, mais aussi le monde est dans la perspective d'espoir. C'est là où je chorégraphie la vie.
I love you, Wanda, OK? C'est un processus qui prendra du temps, mais on va réparer. Pour moi, c'est la question.
Vous avez utilisé, quand vous avez dialogué avec les jeunes tout à l'heure, le mot réparation.
Évidemment, parce que la question de la restitution est très, pour des politiques, centrée sur l'œuvre. Mais qu'en est-il des communautés qui ont conçu ces œuvres-là, dont certaines familles sont vivantes aujourd'hui et qui en réclament réparation? Réparation au niveau, si on veut parler du territoire, je prends l'exemple du napalm qui a été versé à l'ouest au Cameroun, justement pendant la période de l'indépendance, suite à l'attaque voilà, du général de Gaulle, tout ça. Et aujourd'hui, ces terres n'arrivent plus à cultiver. Je parle de avant 1960. Pourquoi ? Parce qu'un produit chimique s'est enterré dans ces espaces-là avec les ancêtres qui ont été calcinés. Mais aujourd'hui, les grands-mères n'arrivent pas à cultiver, ça ne produit pas de la semence. Et donc, du coup, c'est à cet endroit que moi, je parle de réparation aussi. Maintenant, il y a la réparation des esprits. Comment apaiser ça? Parce qu'on a, on a une forme de violence qui est très là, qui est présente. Vous voyez la tendance en Afrique aujourd'hui. Mais il faudrait que l'Europe repense aussi sa position et repense comment mener la danse à deux. Voilà, donc c'est vraiment important pour moi, la question de la réparation à cet endroit. Ce n'est pas juste l'œuvre, parce que l'œuvre, oui, mais après, voilà.
Et on répare avec l'art?
Et justement, l'art a toujours réparé les mœurs. Quand je prends l'exemple de l'art en général, je parle de Fela Kuti, qui aujourd'hui était un symbole de la phobie. Je prends Bob Marley. C'est vrai qu'au niveau de la danse, parce qu'on a un problème de transmission, et c'est pour ça que les artistes, comme nous, on décide de transmettre dans des espaces pareils, d'amener l'art dans la rue comme ça, dans des endroits comme ça, informels, dans des lieux où on ne les a pas convoqués, qui sont les bienvenus, tout le monde est invité, même une personne handicapée, là vous avez vu, même une personne voilà, qui est mentalement instable peut voir la performance, parce que ça s'adresse à toute personne sans frontières. Et donc je crois qu'à cet endroit, on peut réparer. On peut réparer parce que c'est une question d'identité, mais c'est une question d'humanité.
Et le dialogue avec les personnes présentes qui assistent avec vous, ça fait partie du spectacle?
Oui, c'est la continuité, parce que pour moi, il n'y a pas de fin de spectacle, puisque ce n'est pas le spectacle que je mets en scène, c'est la vie. Il n'y a que j'interromps juste le processus. Ça veut dire qu'à la fin de la discussion, on a interrompu le processus, mais la performance continue dans les imaginaires. Et donc, ça fait partie, mais à l'aise. Ce n'est pas programmé qu'à la fin, je vais discuter avec les gens, mais si je sens, et je discute, on discute, puisque c'est tout d'abord c'est une question de l'humanité.
Et ça alimente aussi votre travail pour la suite?
Exactement. C'est tout l'endroit du processus de comment je crée avec le public et avec l'espace public. Pas pour l'espace public, mais avec.
La performance est terminée là?
Ça continue. Ça, ouais. Merci, c'est interrompu. Ouais, derrière.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
Le spectateur n'est pas là en spectateur.
Dorcy Rugamba, directeur artistique de la Triennale.
Il est partie prenante, c'est une forme interactive où il est au cœur même de ce qui se passe sur le moment.
Au cœur de l'œuvre presque.
Au cœur de l'œuvre, l'œuvre se passe dans la rue, au milieu des gens, l'artiste se balade et quelque part, il n'y a même pas ce silence convenu des salles ombragées ou noires du théâtre. Les gens parlent, ça participe justement à l'œuvre même, c'est-à-dire c'est un plan commun.
No, it's like this. Every time I finish, some people come like this everywhere. Because it's true. It's inside. It's like a what? Ah, it's inside. It's not outside. It's inside. Is it true? Yes, of course.
Tous ces jeunes qui étaient là, enfin même pas seulement des jeunes, des gens de tous âges, qui probablement n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. Et ça ouvre totalement d'autres champs des possibles. Et ça, je pense que, comme fonction sociale, c'est quelque chose d'essentiel.
Dans quel monde on vit ? À la première triennale de Kigali.
Colette Brackmann est grand reporter au journal Le Soir. Elle assiste à cette triennale.
Je trouve cet événement très important. Pour moi, c'est un signe de renaissance parce que on a souvent souligné, à juste titre, les progrès économiques du Rwanda, le fait que Kigali devient un carrefour de rencontres internationales, d'hommes d'affaires, etc. Mais maintenant, ça devient aussi un lieu de rencontres d'artistes et de personnes. Et ici, j'ai été vraiment impressionnée par le nombre d'artistes africains qui se sont donné rendez-vous à Kigali et en particulier par le nombre de Congolais, de gens qui sont venus du pays d'à côté.
Et pourquoi est-ce que c'est étonnant ? Dites-le-nous.
Ah ben parce qu'ils sont en guerre, parce que si vous allez à Kinshasa, tout le monde va vous dire que le Rwanda, c'est l'ennemi, pas héréditaire, mais enfin, c'est l'adversaire. Alors que dans la région, les gens ont toujours vécu ensemble. On traverse les frontières, d'ailleurs, ils ont un passeport commun du temps de Mobutu, le passeport CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui les dispense de visa. Ils traversent la frontière avec un laissez-passer. Et donc, ici, à ce festival, j'ai rencontré énormément de gens qui étaient venus de Bukavu, d'ailleurs du Congo, parce qu'ils étaient intéressés par ces échanges artistiques. Il est magnifique de voir comment des Rwandais dans le public applaudissent des artistes congolais, font une ovation hier à notre, entre guillemets, notre Joël Sambi. Voilà. Et donc là, comme on dit au Congo, on est ensemble. Et ça, c'est vraiment... Ce festival est aussi un festival de paix et de dialogue. Qu'est-ce que les gens se disent quand ils prennent un verre ou quand ils sont assis sous les tentes, je ne sais pas. Ils se parlent peut-être de leur région, d'eux-mêmes, mais il est sûr que des liens se créent et que ça éloigne un peu les perspectives de guerre.
Il y a des fantômes. Il y a des fantômes partout. Ils hurlent. Entre les murs du chaos, il y a des fantômes. Ils flottent, menaçants.
Joël Sambi présente Maison Chaos, son nouveau spectacle. Elle nous emmène au pays du patriarcat, comme elle le dit, parle de culture du viol et fait le récit intime des violences subies.
La fois où tonton a introduit ses doigts en écartant le coton de ma culotte de petite fille à 5 ans. Les fois où un autre encore venait me caresser la poitrine à 6 ans. La fois où, à 9 ans, cet ami de la famille m'a attiré dans son bureau pour échanger une mignonnette Côte d'Or contre sa langue dans ma bouche. La fois où, à 12 ans, le père de ma meilleure amie a exhibé son sexe en érection devant mes yeux d'ado terrifié. La fois où, à 13 ans, ce militaire pillard a exigé que je me déshabille entre les murs de ma maison d'enfance. La fois où.
J'ai essayé d'éviter le sujet, j'avoue. Et finalement, je me suis dit, je ferais un spectacle un peu tiède si je ne disais pas, en somme, moi aussi. Peut-être parce que j'avais une crainte que, justement, on se dise « Ah, en fait, elle vient du Congo, la capitale du viol, c'est normal. » Alors que non, c'est un viol qui a lieu en Belgique, etc. Et après, je détaille comme ça pour parler aussi de... ça remonte. C'est pas un moment précis, c'est comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on arrive à cet événement-là, comment est-ce que les attouchements, les regards, les remarques sexistes, enfin, comment tout ça, depuis nos plus tendres enfances, à l'âge adulte, comment tout cela participe du patriarcat.
On parle d'endroit, on parle de lieu, nous sommes ici à Kigali, première triennale des arts. Ça a quel sens pour vous de vous inscrire dans cette programmation ?
Je suis très heureuse d'être là. Je ne vais pas faire semblant parce que je sais que les relations ne sont pas les plus belles entre le Congo et le Rwanda. Et pour autant, de me retrouver ici avec des camarades congolais, burundais, rwandais, et d'être sur des questionnements de simplement comment, enfin simplement entre guillemets, comment est-ce qu'on va montrer nos pratiques artistiques et se les mettre en partage. Ben ça, c'est peut-être un peu naïf, mais je pense pas. Je crois que ça participe de comment on se parle, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à se parler? Comment est-ce qu'on arrive à, ben, finalement, à dépasser les discours peut-être politiques qui sont à l'avant-scène, non pas qu'ils soient faux, enfin c'est pas mon endroit en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations, les liens que je tisse avec les personnes qui sont ici, et comment est-ce qu'on arrive à questionner. Enfin, quand moi je parle de patriarcat, ben, j'ai des camarades qui sont burundaises, qui sont rwandaises, qui savent exactement de quoi je parle. Et en fait, on se rejoint là. Finalement, si nous sommes une nation, ben notre nation est celle d'être artiste, quoi, et d'être citoyen, citoyenne, et de questionner les mécanismes de violence et les mécanismes dans lesquels on essaye de nous enfermer, quoi.
Et donc faire communauté grâce à l'art, grâce à la culture.
Oui, aussi, mais vraiment de manière, pour le coup, ici,
concrète.
C'est très concret, quoi, parce que, j'aurais jamais pensé, c'est pas la première destination à laquelle j'aurais pensé.
Pendant la représentation, une pluie bien fournie va se faire entendre.
Ça fait des gens sages. Ça fait des gens sages, les battus, les violés, les incestés. Ça fait des gens sages. Ça fait des petits citoyens dociles, prêts à rentrer dans les rangs. Prêts à prendre la négligence. Prêts à accepter la négligence. Prêts à prendre la merde du caviar. Ça fait des gens sages. Ça fait des gens sages. Ça fait des gens sages, les battus, les violés, les incestés. Ça fait des gens sages. Ça fait des gens sages. Tendre et tendre. Tendre et tendre. Tendre et tendre. Tendre et tendre. Retire-moi la moisse. Mettez-moi en bas. Retire-moi la moumane. Mettez-moi en ma casse. Retire-moi la moisse. Mettez-moi.
Il a plu, il y a eu des coups de tonnerre. J'ai pensé que ça faisait partie de la bande-son.
Nous aussi, mais pas du tout. C'est vraiment une sorte de coïncidence météorologique, faut croire. Mais c'est vrai qu'on... Voilà, on m'a dit après, tiens, c'est tombé pile, les tonnerres, et puis
au bon
la
moment.
Pluie, au bon moment, voilà. Faut croire qu'on joue là, à Kigali, en Afrique, pas très loin de chez moi, au Congo. Moi, j'ai voulu y voir quelque chose.
Cette triennale, elle connecte donc des artistes du monde entier. Dorcy Rugamba.
On a vu des Syriens qui sont ici, qui sont venus ici jouer, qui venaient de Beyrouth. Il n'y a pas une communauté syrienne ici, il n'y a pas une communauté libanaise ici. Et donc le lien n'est pas immédiatement naturel, mais l'art le permet. Permet de jeter ces ponts inattendus, et c'est un bonheur absolu. Ces Syriens qui ont leurs propres pratiques, leurs propres instruments, leur musique, la rencontre de cette musique-là avec des musiciens contemporains, avec le traditionnel, en l'espace d'une fête, tout ça a mixé. Et ça a créé une musique monde avec des gens qui dansaient partout. Et c'est un miracle en soi, en fait.
Wait, wait, wait. Whoa! Ce spectacle d'Osama Halal a pour titre « The trees dance sometimes ». Les arbres dansent parfois.
Dans quel monde on vit, à la première triennale de Kigali.
Fabrice Murgia pense avoir décelé l'une des singularités de l'art scénique rwandais.
Ici, en fait, la traduction, c'est quelque chose de très deep, très profond. Il peut y avoir des danseurs traditionnels avec perruques traditionnelles, etc., dans un spectacle de théâtre contemporain. On voit ça un peu avec le flamenco en Espagne. Faire de la danse contemporaine, ça n'empêche pas d'avoir un danseur de flamenco contemporain.
Et on mélange les strates de temps en même temps.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme. Moi, ça me rappelle fort. Je sais pas, quand je vais à la Louvière au carnaval et que je vois des jeunes dans des costumes de Gilles de Binche, ils se disent pas c'est un truc de vieux, ils y vont.
Et le tambour traditionnel, il était sur scène lors du spectacle de la poétesse Lisette Maneza. Le traditionnel qui se mêle au contemporain, la poésie à la danse et au chant.
So many different languages. So there's the real language that lays on our tongues, but then there's also your body language.
Il y a tant de langues différentes. Il y a la vraie langue que nous parlons, mais il y a aussi le langage du corps.
Experience all those.
Et j'adore explorer toutes ces manières qu'on a de s'exprimer. Et j'aime voir ça sur scène.
I love to see that on stage and to translate.
Traduire la danse en musique, la musique en poésie, la poésie en film, et ainsi de suite.
To film and so on and so on. And I also think that art is for me, or poetry for me is translation.
La poésie, pour moi, c'est une traduction. C'est traduire les vies autour de moi, les gens que je connais, mes propres histoires. J'aime toutes ces formes de traduction, oui.
Les parents de Lisette Maneza ont fui le Rwanda en 1994. Elle est née, elle, aux Pays-Bas et vit pour le moment à Bruxelles. C'est au travers de films, de livres et de discussions avec sa famille, notamment, qu'elle a pris connaissance du génocide des Tutsis.
Quand j'ai commencé à me poser plus de questions, j'ai questionné mes grands-mères. Et j'ai commencé à filmer. Filmer est ma manière de me documenter quand j'écris mes poèmes. Donc, quand j'ai posé ces questions à mes grands-mères, j'ai emmené une caméra. Et pour le moment, c'est comme ça que je veux partager ces histoires, mais je ne sais pas ce qui va en sortir. Et je crois que sur la question de comment je veux parler de ce génocide, je veux d'une part raconter ce qu'il s'est passé, mais aussi dire comment les gens ont géré cette situation. Parce que c'est aussi une histoire de comment est-ce qu'on gère le trauma et comment on en guérit.
Cette question du passé, Hope Azeda l'a beaucoup creusée. Elle est l'une des figures du théâtre contemporain rwandais. Elle est née en 1972 et a grandi comme réfugiée en Ouganda. Hope Azeda diffère avec sa compagnie du théâtre de réparation, du théâtre de restauration. Elle a monté le projet Generation 25.
All right. So in 2019, it was 25 years after.
En 2019, c'était 25 ans après le génocide contre les Tutsis. Et comme je travaille beaucoup avec des jeunes, j'ai réalisé que cette fois une nouvelle génération était née.
25 years is a generation.
25 ans, c'est une génération. Et je me suis demandé si on parlait assez avec ces jeunes. J'adore travailler avec les jeunes à cause de l'énergie qu'ils ont et tout ça. J'ai commencé à leur parler et on a réalisé que le Rwanda est composé à 70% de jeunes. La majorité sont nés après le génocide et on peut se demander si on aborde assez le sujet avec eux. Puis j'ai réalisé qu'on avait une génération d'enfants nés de victimes ou d'enfants nés d'un viol qui se questionnent sur leur identité. Il y a des enfants dont les parents sont en prison à perpétuité, mais ils ne connaissent pas la vérité. Et il y a des enfants qui ont quitté le Rwanda et qui se demandent quel est leur pays. Donc en allant plus profondément dans ces conversations, ça a été un grand révélateur. Comme si on devait créer des voix, on doit parler avec ces jeunes. Parce qu'avant, on se concentrait sur les victimes. Mais maintenant, on a un nouveau-né appelé Génération 25. Et que fait-on pour rompre ce cycle de transmission de la mémoire? Comment la mémoire est-elle transmise? Et que retiennent-ils du passé? Avons-nous seulement assez de bonté à leur donner? Qu'avons-nous de bon à leur donner? S'il n'y a pas de positif, quelles sont les chances qu'ils ne fassent pas marche arrière? La conversation tournait autour de ça, et moi j'ai beaucoup appris. Donc on a fait une audition, et on a eu environ 200 jeunes. Des poètes, des artistes de hip-hop, quoi qu'ils fassent. Et nous leur avons demandé, qu'est-ce que c'est que cette génération 25?
What does your tomorrow look like?
À quoi ressemble demain? Quel est l'avenir que vous désirez? Et on a choisi 25 incroyables artistes talentueux. Et ce qu'ils disaient tous, c'est on ne m'a pas assez dit la vérité sur mes parents. Tout est à moitié la vérité. Même ma mère m'a dit une demi-vérité, me disant que je n'étais pas une réfugiée. Et je lui disais, les gens disent que je ne suis pas ougandaise. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Et là, Rwandais, il s'invente aussi en dehors de Kigali, mercredi et jeudi. Nous sommes sortis de la capitale du Rwanda pour assister à la version délocalisée de cette triennale. Et c'est ce que nous faisons vivre dans un instant. À tout de suite et beau samedi.
Dans Quel monde on vit, numéro spécial depuis Kigali.
C'est sympa de vous savoir là. Dans quel monde on vit au Rwanda cette semaine à l'occasion de la première triennale de Kigali, triennale qui s'est déroulée aussi au bord du lac Kivu. Nous y serons tout à l'heure. C'est à bord d'un minibus que nous avons quitté la capitale du Rwanda dans un décor très vallonné. Nous avons traversé des petites villes, des champs de maïs et de bananiers, vu des gens travailler la terre, transporter les récoltes dans des grands sacs blancs calés sur leur vélo. Le chauffeur de notre minibus ne cesse de klaxonner pour éviter les collisions. Nos rétines impriment des paysages avec du relief, quelques-unes des célèbres 1000 collines du pays. Après 3 bonnes heures de trajet et quelques lacets, nous faisons une escale.
On est au nord du Rwanda, on est à Burela, le middle, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Au milieu de deux lacs.
Ouais. De la Burera en Rwanda.
Le propriétaire des lieux, c'est le jeune artiste rwandais Cédric Misero. Et c'est là que se trouve votre maison d'artiste. Comment est-ce que vous l'avez imaginé, ce lieu?
Le lieu, c'est juste un espace pour les gens qui veulent créer, les gens qui veulent connecter. Ça perd...
qui signifie le papillon et qui symbolise la transformation, la métamorphose.
But you have to be open. Follow me.
Maza kanezekwa, maza kanezekwa, maza kanezekwa.
En lien étroit avec les villageois, Cédric Misero nous fait vivre une expérience unique, une sorte de grande randonnée en pleine nature, ponctuée d'une série de performances, chants et danses, expositions d'œuvres d'art, dans des maisons traditionnelles ou en plein air. C'est comme si l'art épousait les paysages. Ce fut une sorte de communion hautement chargée en émotions.
Dans quel monde on vit au Rwanda?
The child of the sun. We are here to welcome him to the trees, waters, and soil. The angel part of the nature as of now. The spirit of the light in him stays in our hearts and everything around us. We pray he takes a peaceful journey back to our ancestors. We pray for acceptance. It is with gratitude that we have bared the child of the sun.
Les mots lumière, joie et esprit hantent les créations de cette nouvelle génération. C'est ce qui a amené Dorcy Rugamba, le directeur artistique de cette triennale, à nous confier avec émotion « Cette génération est en train de guérir le pays ». Au fil des pas, nous prenons de la hauteur, la vue sur les lacs et les îles voisines est saisissante. À un moment, nous entrons dans une sorte de marché local reconstitué. Maïs grillé, thé africain, mangue et banane constituent notre pause pique-nique.
So you're welcome. So you keep moving, explore, check the market, ask stories, and then we keep dreaming. Just keep moving.
Une fois arrivé au sommet, un dernier temps fort nous attend. Ces musiques traditionnelles interprétées par plusieurs générations de Rwandais nous ensorcellent. Et tout à coup, la pluie tombe. Nous sommes littéralement rincés. faut nous imaginer redescendre jusqu'au minibus, éviter les flaques et les chutes.
Numéro spécial depuis le Rwanda.
Le lendemain matin, réveil musical et poétique.
Ici, c'est le paradis. Hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On est au bord du lac Kivu. On est entouré de quelques collines magnifiques. Comme on dit ici, les nuages sont verts. Une petite île en face, des barques. C'est simplement le paradis, en fait. C'est simplement paradisiaque, quoi, comme lieu. Vraiment.
Guitare à la main, l'artiste sénégalais Majnoun Sarr chante et lit de la poésie. Derrière lui, les pêcheurs locaux.
Pour moi, c'était juste magnifique parce que moi, je viens aussi d'un peuple de pêcheurs, d'un peuple de l'eau. L'auteur du texte, je le connais très bien, c'est comme un petit frère pour moi, c'est mon cousin. Et sa plume, elle est belle. Donc, il parle du peuple de l'eau, les Nyominka de là d'où on vient, du Sinsaloum. Et j'ai trouvé que justement, l'intuition était juste et voilà, est belle. C'est-à-dire que de pouvoir faire ça ici, avec les pêcheurs, ça faisait complètement sens.
Paradis enclavé. Je suis enfant de cette terre, de cette mer bleu ciel allègre qui fascine. Je suis enfant de cette mer noire nuage espiègle qui intimide. À l'horizon qui me fuit, au passé têtu qui me suit, au présent toujours absent, je dis ceci fièrement.
Le peuple de l'eau, c'est à la fois le peuple des humains, le peuple des non-humains, voire le peuple des esprits.
Les morts ne sont pas morts, disait Ibirago Diop. Donc je crois que dans toutes les spiritualités africaines en général, c'est normal. L'invisible et le visible se côtoient. Les morts et les vivants se côtoient. Il n'y a pas vraiment de frontière entre eux. Et
c'est... Le peuple de l'eau, c'est aussi un peuple en lutte.
Habiter une île, c'est compliqué. Être insulaire, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un challenge à rentrer chez soi, à sortir de l'île, à y revenir. C'est tout un challenge, tout un défi en soi. Donc oui, et ce peuple-là aussi vit des moments des fois difficiles, des moments durs. Donc même si le lieu est paradisiaque, il y a quand même des challenges, des combats politiques, autres qui les emmènent des fois à avoir des luttes, effectivement, à mener. Quoi.
La marée se retire vers sa source profonde et infinie. La berge affiche de par sa denture de coquille un sublime sourire. L'écume éphémère sur le sable adamantin se dissipe au souffle de la brise. Les feuilles mortes de palétuviers et les bâtons tombés de ses halophiles.
Que se passe-t-il quand l'eau se retire?
Tout dépend. Tout dépend de l'endroit, du pourquoi, du comment on est là. Mais effectivement, on vit en tout cas au rythme des marées. Quand la marée se retire, c'est le meilleur moment pour justement se laver. Pour justement laver les choses qu'on a envie de laisser à la marée emmener. Donc il y a des moments dans la journée où chez les Nyominka, ils vont dire que bon, si tu veux laver ton esprit et ton cœur, c'est à telle heure qu'il faut aller te laver dans la mer.
Et vivre poétiquement, c'est
c'est être une poésie en soi.
Et accepter les silences?
Oui, forcément, être en silence. Accepter le silence, c'est même pas, je dirais même pas accepter le silence, je dirais juste habiter le silence. Réapprendre à habiter le silence, réapprendre à se taire, réapprendre à écouter, à méditer, à communier. Et pour ça, effectivement, il faut du silence. Et le peuple de l'eau est un peu privilégié dans ce sens-là, parce que les cadres magnifiques dans lesquels vous voyez là, permet aussi ça, appelle plus facilement une certaine méditation que dans un milieu urbain saturé de voitures. Donc c'est une chance, je crois, d'habiter des lieux comme ça. C'est une chance pour être vraiment en communion avec le cosmos, simplement, quoi.
Boutonne par la nuit veillée, yundo. Boutonne garce la nuit veillée, yundo ya. Boutonne yermande la nuit veillée, yundo. Boutan, mitela nyui peye.
C'est augmenté de poésie et de beauté que nous reprenons la route vers Kigali.
Dans quel monde on vit au Rwanda ?
Arrivé dans la capitale, je demande encore à Dorcy Rugamba, le directeur artistique de la Triennale, de se projeter vers l'avenir. Comment est-ce que vous imaginez la 4e édition de la Triennale ?
La 4e édition de la Triennale, alors...
Dans 12 ans.
Alors, dans 12 ans, il y aura dans toutes les rues des performeurs partout. Il y aura des formes nouvelles que je ne peux même pas anticiper parce que la société aura quand même beaucoup changé. Je crois que l'art numérique sera pratiquement un art majeur que l'on retrouvera partout. J'imagine cette ville au-delà d'une programmation du IN, mais les habitants eux-mêmes prenant l'initiative et proposant du OFF, invitant l'art dans leur propre maison, les artistes à y exposer, les musiciens à y jouer de la musique et que la triennale se fasse vraiment, encore une fois, comme un plat commun où les artistes et les habitants et ceux qui viennent ici pourront ensemble être dans la proposition.
Pascal Claude et Bawandine au Rwanda.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.